Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues rapporteurs, mes collègues. Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, je vous remercie pour vos excellentes références et aussi pour avoir relevé une fois de plus la question des corridors européens. Le député du Port du Havre, vous imaginez, y est très attaché. L'Union européenne est devenue au fil de sa construction un carcan plutôt qu'une chance pour les peuples. Il reste peu de temps avant les élections de printemps pour démontrer qu'elle peut être réellement une chance avant de tous nous retrouver avec la gueule de bois. Malheureusement, le chemin pris par la direction actuelle de l'Union européenne ne va pas dans ce sens. Madame la Ministre, vous avez dit considérer que ce n'était pas qu'une question comptable, le débat que nous avons aujourd'hui, et je pense que vous avez raison. C'est une question éminemment politique. Superbe idée de coopération entre les nations pour bannir la guerre qui rongeait le continent depuis des siècles. L'idée d'Union européenne a peu à peu été dévoyée jusqu'à devenir une union néolibérale, avec pour seul objectif l'augmentation et la protection des profits. Face à cette absence totale de perspectives attractives par un grand nombre de nos concitoyens européens, et surtout pour faire avaler l'idée néolibérale qu'il n'y aurait pas d'alternative, le président Macron a décidé de couper l'Europe en deux, de diviser pour simplifier à outrance. Il y aurait l'axe du bien, à la tête duquel il se tiendrait sur son cheval blanc et qui lutterait pied à pied contre l'axe du mal. Cet axe du bien serait celui des néolibéraux qui veulent que le capital circule plus vite que les humains et que toute action publique est une entrave à la libre concurrence. Pour nous, qui n'avons aucune leçon d'Europe à recevoir, cette Europe-là, c'est l'Europe de la souffrance sociale, du surplace écologique, de la compétition entre les peuples. C'est une Europe porteuse de la fin des services publics depuis la tour d'ivoire bruxelloise. L'axe du mal, c'est celui des nationalistes, qui voient l'avenir de la reproduction des affres qui ont conduit à la misère et à la désolation sur tout le continent. Mais il se nourrit de la désillusion, de la déception, de la colère, du dépit des peuples victimes des politiques néolibérales. Pour eux, la seule alternative passe par le repli sur soi et la xénophobie. Le retour des barrières, des murs, du protectionnisme. Résultat, la politique européenne est littéralement prise en otage par ces deux groupes partageant le même manichéisme. D'un côté, les néolibéraux de Macron ou de Merkel ont besoin de néofascistes pour être élus, car l'extrême droite catalyse la haine et les peurs. Ils se sont choisis comme ennemis réciproques, et ça tombe bien. Cela arrange les tenants du néolibéralisme et ça permet de faire diversion. L'extrême droite est bien l'idiot utile au néolibéralisme. Et l'extrême droite a besoin que soit menée une politique antisociale pour justifier son existence et pour justifier la violence sur les minorités. Elle se gave de toutes les injustices pour prospérer et comme un marchand de rêve pour proposer des solutions simplistes. Et quand du haut de l'estrade sur laquelle ils ont été portés sans aucun vote citoyen, les commissaires viennent tenter de bloquer des programmes ayant été validés démocratiquement par les peuples en Grèce ou en Italie, par exemple, pour trier ce qui serait bon ou néfaste. Quand ils freinent d'ignorer que l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni pour faire capoter un Brexit, négocier et imposer un Brexit punitif. Quand ils ont laissé les banquiers et la finance détourner les législations nationales pour encourager l'optimisation de la fraude fiscale ou encore se goinfrer sur les conséquences de la crise de 2008 dont ils ont pourtant été sauvés par les États et donc les contribuables. Quand ils raillent de la carte, sans concertation, les ports français, des projets de nouveaux corridors maritimes pour servir ceux plus au nord qui fonctionnent sur un modèle ultralibéral absolu. Ils ne font qu'alimenter ce qu'ils dénoncent et creuser le fossé entre les nations et l'Union. Puis ils viennent avec leurs larmes de crocodile s'alarmer des montées des extrêmes dans les urnes. La politique en Europe est dans l'impasse. Et plutôt que de se laisser enfermer par ces postures qui nous mènent droit dans le mur, nous communistes, et nous ne sommes pas les seuls, loin de là, avons toujours proposé et agi pour une Europe des peuples, pour une Europe où la solidarité et la coopération seraient le maître mot. Une Europe où le droit du travail serait protecteur partout, où la pauvreté reculerait enfin, où la coopération aurait pris le pas sur la concurrence, où les services publics seraient préservés comme un bien et non pas considérés comme une manne financière échappant aux appétits du privé, où la défense de la nature, de la biodiversité et du climat serait une priorité, et où tout cela fonctionnerait avec une fiscalité puissante et surtout sans fuite. Bref, une Europe où le dumping social, économique, écologique ou fiscal ne serait plus que les vestiges de l'ancien monde. Il paraît fondamental de répéter cette volonté-là, tant les débats d'aujourd'hui ne tournent qu'autour du combat des néofascistes contre les néolibéraux. Nous refusons d'admettre que l'Europe, cette magnifique construction, ne se réduise à cela. Les 28 commissaires européens qui élaborent le budget sont choisis par les pays membres de manière totalement opaque pour gérer l'Union européenne de fait. Et ces gens-là donnent des leçons de démocratie. Dans le plus confortable des entre-soi, les commissaires décident de bien des choses, à commencer par les traités de libre-échange. S'agissant des barrières tarifaires, pour reprendre le jargon volontairement péjoratif, c'est-à-dire tout simplement des droits de douane, l'Union européenne est toujours prompte à les supprimer. Et peu importe que les subsides issus des douanes représentent la seule source de financement propre du budget de l'Union. Au moment de boucler le budget, il suffit de demander aux États d'augmenter leur contribution au budget et l'affaire est réglée. En 1988, la contribution des États représentait moins de 11% du financement de l'Union européenne, contre 28% provenant des droits de douane. Aujourd'hui, la contribution des États finance plus de 70% du budget communautaire, complété par seulement 16% provenant des droits de douane. Le budget de l'Union de 2019 s'élèvera donc à 165,6 milliards d'euros de crédits d'engagement et à 148,7 milliards en crédits de paiement. Avec des contributions des États à hauteur de 70% du budget, ce sont plus de 100 milliards qui sont mobilisés par les États membres pour le budget européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là le fond de notre débat. Pourquoi la France paye 21,5 milliards à l'Union européenne ? Parce que l'Union européenne n'est pas capable de prélever des taxes elle-même et qu'elle se contente de demander plus à ses États membres. On le voit avec les traités du type CETA, par exemple, ou d'autres. Et après, les commissaires s'étonnent qu'un sentiment anti-européen se soit durablement installé en Europe. Après avoir martyrisé le peuple grec, après avoir imposé un carcan budgétaire qui étrangle les États membres, après avoir négocié en secret plusieurs traités de libre-échange, on s'étonne encore. Que voulons-nous ? Qu'attendons-nous ? Ou plutôt, que sommes-nous en mesure d'attendre de l'Union européenne actuelle ? Le budget 2019 de l'Union européenne, qui est discuté ici, au travers du prélèvement des ressources françaises, n'est pas encourageant. Le budget actuel va certes encore majoritairement à la politique agricole commune. Une politique agricole commune qui, comme l'a souligné à juste titre le rapport d'information présenté par nos collègues Fréchy et Chassaigne, n'est pas une politique du passé, dont il faudrait réduire la part dans le budget européen. Et mon collègue président l'a encore rappelé tout à l'heure, ainsi que la présidente de la Commission des affaires étrangères. Pourtant, sa part n'a cessé de décroître pour atteindre moins de 40% des dépenses communautaires aujourd'hui, contre 2/3 au début des années 80. Son coût ne représente plus que 100 euros par habitant et par an. Ce budget est également marqué par une augmentation des crédits liés à la sécurisation des frontières et contre l'immigration. Voulons-nous de cette Europe forteresse ? L'Union européenne devient recroquevillée et paranoïaque. L'agence Frontex, qui sert à la protection des frontières, va voir ses effectifs passer de 1 400 à plus de 10 000 agents. Ce sont 33 milliards qui seront affectés à la protection de nos frontières et 20 milliards pour la défense. Cette obsession pour la sécurité de l'Union tourne au ridicule. La crise migratoire est profonde et ce n'est pas en laissant mourir les migrants à nos portes que nous serons en sécurité. Dois-je rappeler que la Méditerranée est la route migratoire la plus dangereuse du monde qui a vu périr près de 17 000 êtres humains depuis 2014. La sécurité dans ces pays du Sud, nous l'obtiendrons en permettant aux pays en crise de se reconstruire par de l'éducation, des services de santé importants, des infrastructures de base, des services publics forts. Et pour cela, il faut intensifier les aides publiques au développement et surtout arrêter de mener les guerres destructrices pour la stabilité des zones géographiques considérables comme en Libye ou ailleurs. Cette montée en puissance de l'Union européenne sur les sujets sécuritaires va à rebours de ce qu'il se prépare. Dans quelques décennies, les migrants climatiques devront être accueillis à bras ouverts. Les racines des maux écologiques actuels proviennent de la révolution industrielle que nous, pays d'Europe, avons menée depuis le début du XIXe siècle. D'autant plus lorsque l'on sait que l'Union européenne est la troisième puissance qui émet le plus de CO2 au monde. Le budget européen amputé du Royaume-Uni dès 2019 aurait mieux d'être plus attentif aux besoins des peuples qui luttent pour une société plus équitable, éthique, plutôt que d'écouter ceux qui œuvrent pour un monde où notre boussole indique le profit plutôt que la solidarité. Dans cette nouvelle guerre froide entre les néofascistes et les libéraux, le seul cap à suivre pour sortir l'Europe de l'ornière, c'est celui qui conduira chaque Français, chaque Italien, chaque Espagnol à considérer qu'il est aussi européen, parce qu'il ne verra aucune contradiction et au contraire que des complémentarités entre ces deux filiations. Vous l'aurez compris que les députés communistes du groupe GDR ne voteront pas ce prélèvement.